Bienvenue à toutes, vous écoutez Radio 40, il est 19h et on se retrouve pour cette première session d'écoute à distance proposée par le TU, Théâtre de l'Usine.
Pour celles qui ne nous connaissent pas, le TU est un espace dédié aux arts vivants émergents, à la fête et à la pensée critique. Il est situé à Genève dans le centre culturel autogéré L'Usine.
Depuis une année, nous explorons un nouveau format, les sessions d'écoute. Parfois pensées en résonance avec des créations, parfois en réponse à une urgence du moment. Elles ne sont pas conçues comme un espace de débat, mais comme un moment pour prendre le temps d'entendre et de transmettre des paroles, des savoirs et des expériences souvent minorisées.
Habituellement, nous nous retrouvons environ une fois par mois pour pratiquer l'écoute active, collective et solidaire autour de lectures, pièces sonores, podcasts ou récits de conteureuses. Par ces temps de distanciation sociale, nous avons cherché d'autres moyens de partager avec vous nos obsessions positives.
Grâce à Radio 40, que nous remercions chaleureusement, nous sommes heureuses de vous proposer ce moment d'écoute autour du projet Braza, la traduction comme geste politique, avec les textes de Castiel Vitorino Brasileiro, Jota Mombasa, Musa Michele Matuzzi et Pedra Costa.
Retrouvez toutes nos sessions d'écoute sur notre compte Mixcloud Tu Listening et suivez-nous sur les réseaux. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez radicalement vos cœurs et vos oreilles et bonne écoute.
Les textes que vous allez entendre ont été écrits par les autrices brésiliennes Pedra Costa, Musa Michele Matuzzi, Jota Mombasa et Castiel Vitorino Brasileiro. Ils ont été traduits par Luan Almeida, Valentina Davegna, Aurore Zacaius et Léa Meyer dans le cadre de la publication Braza, la traduction comme geste politique, prochainement publiée chez Brook. Pour cette session d'écoute, ils sont lus par Nelson, Sarah Baraka, Chienne de Garde, Eitana Asher et Laurie Abiambere. Merci à Elu.
Manifeste le trou du cul du Sud. Les investigations du trou du cul sont toujours théoriques et pratiques. La théorie est dans la peau et la pratique vient de la vie. La théorie n'existe que si l'expérience existe. Elle ne se transforme que si elle passe par le corps. Le trou du cul du Sud est mouvement. Les conditionnements et systèmes rigides du corps ne circulent pas de manière fluide dans ces études. Nous ne luttons pas contre rien. Nos luttes ont toujours été vaincues, nous l'apprenons déjà dans l'histoire du monde. Nous sommes des sorcières ex et des guérisseuses ex. Notre danse et notre jing sont notre lutte, notre façon d'aimer, de jouer, d'être connecté ex à notre communauté. Nous sommes toujours collective ex, jamais individuel ex. La malice est la base de toute notre vie contre le projet colonisateur. La malice ne s'apprend ni ne s'enseigne. Jamais nos connaissances n'ont été reconnues, sauf lorsqu'appropriées par des corps et des connaissances blanches et ou européanisées. Nos voix ne sont pas audibles. Ainsi, nous avons une autonomie et une autorité totale pour fonder ces études. Pour autant que l'on essaie, jamais elles ne seront reconnues comme champ de connaissance par la blanchité. Nous n'avons pas besoin d'approbation. Nous continuons à critiquer les fantasmes coloniaux au sujet de nos corps et spécifiquement au sujet de nos culs. Notre critique féroce part de nos trous du cul. Notre trou du cul est notre pouvoir. C'est la raison de tant d'interdictions, de fantasmes religieux et coloniaux au sujet de nos culs. L'anthropophagie ne nous unit plus. Nous les avons déjà mangés, conditions imposées violemment par l'éducation civilisatrice coloniale. Maintenant, nous les vomissons et nous les chions. Au sud du monde, au trou du cul du corps.
Manifeste contre les désirs capitalistes. Toi qui t'efforces afin d'avoir un corps sculpté comme une statue grecque. Toi qui trouves beau les hommes correspondant aux stéréotypes du mâle, agressif, jeune, parfumé et parfait, et qui aime le stéréotype blanc aux yeux clairs et blonds. Sache que tu n'as pas de désir propre. Tu es un poupon manipulé par les désirs capitalistes. Nous ne te désirons pas. Ta présence nous dégoûte. Le placard n'existe que pour vous. Nous n'avons jamais su ce qu'est d'être dans un placard. Nous avons toujours été en dehors de ces créations capitalistes et eurocentrées de survie. Nous sommes la guérilla incarnée. Nous sommes celles qui n'ont pas peur, car la peur également est une création capitaliste. Nous sommes celles qui ne se dénomment pas comme « être humain », car ce terme est trop limité et conformé pour ce que nous sommes. Nous ne recherchons pas le bonheur, ni ne sommes dépressives. Tout cela est également une création capitaliste de contrôle des désirs. Nous avons toutes ces informations et nous explosons avec elles. Nous sommes l'urgence de la connexion. Et plus notre connexion est urgente, plus elle est profonde. Nous ne sommes pas la colère incarnée, car quand nous avons surgi, cela n'existait pas. Nous ne sommes aucun des noms que tu nous donnes, car ces dénominations font partie d'un système dont nous ne faisons pas partie. Nous pouvons avoir l'air d'en faire partie, mais seulement de manière externe. Notre imagination et nos désirs sont libres et antérieurs. Nous sommes très anciennes et pour cela même très résistantes et attaquées. Vous pensez que nous avons été cooptées, mais vous ne comprenez pas que notre stratégie est plus fatale que la vôtre. Nous agissons de manière invisible. Le domaine dans lequel nous travaillons, ton système n'arrive pas à le voir. Ce que nous faisons est profond et sans retour. Nous sommes invisibles à ton système, car rien ne devrait exister au-delà de la binarité. mais nous nous hypervisibilisons pour que tu sois dérangé. Nous passons, nous t'affrontons, et au final nous rions de ton système défaillant. Nous ne pleurons pas, mais débordons d'émotions. Quand l'un unx de nous est blessé, nous le ressentons tous. Mais ceci ne fait que renforcer notre travail, celui de vous modifier. Vous pensez que c'est l'unique façon que l'on a de vous modifier. Plus on nous violente, plus nous surgissons, car nous agissons en connexion, et vous en solitaire. Toi qui joues au type contemporain, à celui qui pige tout, à celui qui est compréhensif, nous savons que tu agis en superficie. Tu peux être parmi nous, mais tu n'es pas l'un des nôtres. Ta colère est due à tes limitations. Tu ne peux pas voir. Et si tu le pouvais, tu serais l'un unx de nous. Nous nous reconnaissons quand nous nous rencontrons. Et toi, tu nous méconnais quand tu nous vois. C'est très simple. Mais jamais tu ne comprendras.
Ora, pois, quando fomos amarradas e lançadas na fornalha, em sua mais alta temperatura, por não nos dobrarmos diante do trono de nenhum senhor, foi que desde se revelou a nós. Nascemos em manjedouras e depois de crucificadas ressuscitamos. Desde estão as diabais falando ao pé do meu ouvido. Juntas em unção, fizemos da cruz encruzilhada. Nos levantamos do vale de ossos secos. Transformamos pranto em festa, nossos cuis em catedrais. Conhecemos os mistérios por com eles andar, não mais cavar. Arrebatamos das mãos.
Une écriture noire dissidente pour une narration contenue dans les erreurs. Morceau réflectif issu de mon journal d'Athènes 2017. Athènes, Kypseli, juillet.
Moussa Michel Mathieu.
Dernièrement, l'hétérosuprématie blanche, dans le contexte de la recherche et des pratiques en art contemporain, a fait des efforts pour entendre les voix des corps dissidents et les réflexions sur la politique du corps, pratiques transféministes et désobéissance de genre.
La cis-suprématie privilégiée et extractiviste veut recueillir les échos de la dissidence
en s'occupant de pointer les narrations qui sont fragmentées et contradictoires et propose uniquement de s'approprier une performance esthétique, une allusion programmée à la précarité. Les prémices de ces pensées dissidentes touchant aux asymétries qui historiquement conditionnent nos corps à la subalternité, ils préfèrent les passer sous silence. La blanchité se cache dans un geste de mise sous silence quand elle reçoit une critique sur son geste instigateur qui s'approprie les références subalternes. Je pense que c'est un autocentrage sur son action dominatrice, car la colonisation dans la vie est passée et passe beaucoup par le langage. La blanchité s'appuie sur l'éducation formelle qui a créé, qui crée ce qui est bon, mauvais, civilisé, sauvage, humain, non humain, et dicte ce qui est de l'art.
Je pense cette action comme l'extractivisme,
une trace de violence dans la colonialité. Et je vois que cela s'actualise dans les gestes de la politique néolibérale d'inclusion que nous vivons. Ceci fait réverbérer les échos de nos voix multiples en une liste de contingences et de demandes de représentativité. Alors cette liste devient une véritable compulsion autour de notre différence avec pour prémisse que nos corps dissidents, alors qu'ils occupent les espaces dont la blanchité privilégiée en tant qu'esthétique est produit, pourront performer, dans un contexte civilisé, un sauvetage des ruines du monde patriarcal, hétéro et blanc. La blanchité s'impose dans le langage d'une manière si forte que cela finit par modifier nos propres sens. Nous sommes pris au piège et enracinés dans sa structure. Là où celui qui détient le mot d'ordre ou qui a encore le privilège d'exercer le langage construit une narration. Et surtout, il y a une croyance en la parole. La circulation pour nommer la parole légitime, les moyens de médiation pour la parole. La blanchité crée des stratégies de traduction et capitalise principalement sur la notion de communauté, affirmant que nous sommes tous égaux et que nous comprenons le monde de manière semblable, afin d'affaiblir toute action qui déstructure sa position dans ce monde constitué par les inégalités. C'est en ce sens que je pense la narration et les sujets de microcosme que je vis à présent. Oui, j'ai besoin de me contextualiser dans cet espace-temps de résidence à Athènes. Un mélange gréco-latin. La civilisation qui a raté. Notre pacification dans la résolution des problèmes pratiques, la dissension étant mise sous silence à chaque étape. Je pense qu'en ce moment, il est fondamental pour moi de commencer un dialogue avec cette communauté à travers l'écriture. Peut-être qu'ainsi je pourrais problématiser et percevoir les violences d'un espace de la cisgenrité qui prétend vivre une pratique de l'intégration du commun, et ainsi extraire ce qui est de plus puissant dans la dissidence, l'autocritique, mais nous exclut à chaque fois que le processus est fragilisé par manque de logistique, par exemple. Mais je m'aperçois que dans ce microcosme, il n'est pas possible de pratiquer l'autocritique. Si l'idée de communauté, c'est l'intégration de différentes cultures, de différentes personnes, sans générer d'inégalité et sans générer d'annihilation de ce qui n'est pas, entre guillemets, central, c'est là que se trouve la fragilité. Je m'aperçois que dans ce contexte, l'autocritique ne fonctionne pas. Il y a des bizarreries passées sous silence. Et le corps subalternisé par la colonialité ne peuvent pas générer de langage, car le langage présuppose le pouvoir. Ici, c'est une noire écriture dissidente. Et la blanchité préfère dire que nous avons une dette, ce qui fait de nous des agents dont les messages échappent aux structures. Les signaux de domination auxquels nous sommes habitués, entre guillemets domestiqués, consistent en l'assimilation d'une culture différente et de se l'approprier. L'appropriation culturelle n'est pas la même chose que s'intégrer à elle. Car les corps subalternes, dans cette espèce de communauté, ne peuvent pas lancer d'autocritique. Dans cette communauté, les gens se confient des narrations optimistes et nous exposent à une fragilité démarquée par des asymétries politiques. C'est en perdre la tête. C'est le contraire de valoriser. C'est le contraire de contribuer à l'amplification et à la prolifération. C'est le contraire de la participation de formes positives à l'intégration culturelle qui combattent les violences et les fascismes que la colonisation, l'impérialisme, le néolibéralisme et le capitalisme nous apprennent si bien. La logique de la colonialité est celle de l'assimilation. Par l'appropriation, nous sommes constamment capturés. Soyons qui nous sommes, et notre effort doit être de vivre contre cela, de ne pas nous laisser capturer par la même logique, de ne pas chercher à capturer l'autre, le non-hégémonique, le différent. C'est un exercice d'autoréflexion constant, journalier, interminable. Penser l'écriture avec du sang pour croiser la frontière et se lancer dans le retrait. Rétraction. Retrait. Transformer le sang battu en paroles qui sont immangeables à lire.
Il est venu le temps où, de tous côtés, les lumières de cette époque furent allumées. Ce texte est le résultat d'un exercice d'écoute des mémoires du futur, un travail sur les tendances de la politique contemporaine, sur la continuité et les modes d'actualisation du génocide noir tout au long de l'époque moderne coloniale, mais aussi sur la dimension spirituelle de notre fugitivité et sur la force de nos fragilités intégrées. Il est aussi le résultat d'un exercice spéculatif engagé dans un futurisme urgent qui se penche sur un futur immédiat, en excitant des dispositifs prémonitoires qui pourraient servir à la prolifération de narrations qui nous permettent, simultanément, d'étudier la terreur et de concevoir des formes collectives pour la traverser. Finalement, je dédie ce texte à mes sœurs post-apocalyptiques avec lesquelles je planifie cette traversée de l'impossible de cette époque, et plus particulièrement à Michel Mathiuzzi et à Paulette Linda Selva qui, dans la nuit du 28 novembre 2018, ont réalisé une lecture publique de ce texte dans le cadre du Boteco da Diversidade au CSK Pompeia à Sao Paulo. 20 novembre 2021. Il est venu le temps où, de tous côtés, les lumières de cette époque furent allumées. Tout est là. Tout a toujours été là. Mais est enfin venu le temps où, de tous côtés, on ne peut plus nier que la marche de la terreur avance et que l'apocalypse programmée a occupé, de fait, tout le terrain de la vie commune. Les blindés de la police multipliés, les groupes d'hommes cis-hétéro-armés, les cintras blanches, renouvelant la blancheur totalitaire du monde tel que nous le connaissons et, ainsi, de tous côtés, est venu le temps où le printemps toxique de la dystopie brasiliste a fait germer, dans le vert assassiné du désespoir, sa fleur la plus odieuse. 1er janvier 2019. Nous avons commencé à courir lorsqu'a résonné la première bombe. L'air raréfié de cette année-là perturbait notre souffle, et il n'y avait pas beaucoup de voies par lesquelles fuir. Tout était assiégé, et, peu importe où nous nous tournions, nous trouvions un mur, un portail fermé à clé, une barrière électrique ou une meute de chiens de garde. La seconde bombe a fendu l'air avant ce que l'on avait prévu. J'ai perdu le souffle et, quand j'ai regardé sur les côtés, j'ai réussi à voir, au travers du rideau de poussière et de fumée, que nombre d'entre nous commençaient à tomber. J'ai eu peur de rester seul, mais quelqu'un m'a pris la main. J'ai songé à respirer profondément, mais je ne le fis pas. Les bombes laissaient s'échapper des gaz que je ne pouvais simplement pas respirer. J'ai serré fort cette main, dont je ne savais pas identifier l'appartenance, et je me suis senti soulagé de ne pas être seul. Nous avons couru, main dans la main, sans arriver à voir vraiment le chemin devant nous. Nous trébuchions sur les décombres, nous tombions et continuions. Tous, nos sens en fièvre, assommés par la douleur de tout. C'en était arrivé au point où j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je ne sentais plus mon corps, ni n'étais capable d'articuler ma propre position. Le monde autour de moi semblait s'être éteint et je voyais tout au ralenti. Un silence profond a parcouru l'espace autour de moi. De nouveau, j'ai senti la fermeté de cette main qui serrait la mienne. Je n'étais pas seul. Et nous étions ici. Encore. Ici. Et vivantes. Nous avons couru et couru, changeant sans cesse de direction alors que les voies se fermaient, et elles se fermaient en permanence. Il était impossible de fuir, mais c'était justement pour cela que nous insistions dans notre fuite. C'est alors qu'une bourrasque de vent a tranché la fumée en face de nous et que, pendant une seconde, nous avons aperçu, à quelques mètres, un faisceau intense de lumière noire se projeter depuis une fissure dans la terre. Le cœur battant fort, j'ai été tiré par la main dans cette direction et j'ai eu peur, vraiment peur. Mais je me suis laissé emmener. Ce n'était pas comme si nous avions l'embarras du choix. En réalité, il suffisait de réfléchir une seconde à la situation où nous nous trouvions pour en arriver à la conclusion que nous n'avions pas le choix. Nous étions condamnés à courir indéfiniment, à fuir sans pause, à nous cacher de toutes les patrouilles, à refuser tout abri et à nous défaire de tous les pactes avec le monde. Quand la première bombe a résonné, ce jour-là, nous avons instantanément su que nous étions déjà mortes, que le pacte qui soutenait, même précairement, chacune de nos vies, était rompu à jamais. 21 novembre 2021. Nous avons tout perdu à nouveau. C'est la troisième fois que ça arrive depuis que le temps est venu. Les jours sont longs, presque infinis. Nous avons marché indéfiniment de par les tunnels, expulsés de partout, toujours à l'ombre, toujours ensemble. Ici, en bas, la vibration du monde peut être dérangeante. Il y en a encore qui, parmi nous, rêvent de retourner à la surface, qui rêvent de reprendre le monde et de lui rendre l'intégrité qu'il semblait avoir auparavant. Il y a aussi parmi nous celle qui se moque des nostalgiques et qui insiste sur le fait qu'au fond, le monde n'a jamais été intègre et que, d'une certaine façon, nous avons toujours été ici. Nous avons toujours été ici, de fait. Les tunnels dans lesquels nous vivons à présent furent construits par les premières d'entre nous qui ont parcouru ce territoire. Des personnes esclavisées, fuyant les coups de fouet de ceux qui prétendaient être leurs maîtres. Au fil des années, les chemins se sont ouverts et se sont multipliés, tel un labyrinthe souterrain, une infrastructure ancestrale creusée dans la terre sous les pieds blancs de ceux qui, par la force de leurs armes, se sont imposés en maîtres du monde. On est dans l'obscurité ici. Souvent, nous perdons de vue l'une ou l'autre, et c'est pour cela que nos sens s'aiguisent. Nous apprenons à discuter par le toucher, par l'odorat, par le son de la respiration, par la vibration qui traverse nos peaux et qui résonne en chacune de nous et en toutes. C'est aussi comme cela que nous lisons les tunnels. Chacun des aspects de cette géographie insolite nous parle. L'humidité, les odeurs, le son des créatures qui sont là, elles aussi, et cette lumière noire, presque violette qui, de temps en temps, émerge d'un endroit profond de la terre et inonde tout, illuminant sans pour autant rendre visible. À chaque fois que nous perdons tout, elle vient et s'incarne dans nos corps, tout comme dans la structure même de tous les tunnels. Tout perdre, c'est l'expression que nous utilisons quand l'une d'entre nous meurt. Nous avons arrêté de dire mourir parce qu'au final, depuis la première bombe, nous sommes toutes mortes et même, bien avant cela, depuis le premier bateau négrier, quand nos vies ont toutes été marquées comme faisant partie d'une masse unique et indifférenciée de mort en vie. En tant que morte vivante, certaines d'entre nous aiment s'identifier à des zombies. Nous sommes des zombies parce que, rigoureusement, nous ne sommes ni vivantes ni mortes, mais aussi parce que nous descendons du guerrier zombie de Palmarès. Dans les heures les plus joyeuses, quand nos cœurs s'apaisent un peu et que nous arrivons à ressentir des petites étincelles de vie qui incendient tout à l'intérieur de nous, nous aimons nous imaginer que Palmarès est là et qu'au verso de toute apocalypse, une vie noire se manifeste et vibre et brille comme cette lumière qui émerge des profondeurs chaque fois que nous perdons tout. 17 juillet 1911. J'aimerais faire taire la maudite prophétie de João Batista de la Serta. Lui qui diffuse le programme d'extermination des vies noires au Brésil. Il a dit, lors de la conférence universelle des races à Londres, « Le métissage et la misère constitueront, d'ici 2012, le sujet idéal de la dystopie brasilis. Un blanc souillé, forgé à partir de génocides noirs et autochtones, capable de reproduire, dans les tropiques, les idées de vie, de monde, de société, de corps et de civilité du blanc européen. » 22 novembre 2021. Nous sommes fatigués. Nous ne savons plus comment calculer le temps, puisqu'ici en bas, il n'y a jamais d'aube. J'écris ce journal désespéré, alors que je presse, du bout des doigts, ma tempe gauche, à la recherche de quelques signaux ou événements télépathiques qui me permettent de transmettre quoi que ce soit à notre sujet. Je n'appelle pas à l'aide. La plupart d'entre nous refusent l'idée d'être sauvés, car nous savons que le monde, ou du moins le monde tel que nous le connaissons, ne nous réserve aucun espoir. Ce que je recherche quand j'essaie d'accorder mon esprit à un esprit d'en haut, c'est un moyen de perturber la paix qui nous ensevelit, c'est d'envahir la conscience pacifiée de ceux qui vivent au-dessus de nous, et la faire trembler de la douleur dont nous sommes faites. Nous sommes fatigués et nous sommes furieuses aussi. À certains moments, nous désirons si fort l'abolition de toutes les choses faites grâce à notre mort sociale que nous sentons la terreur trembler autour de nous. Alors, nous nous tenons la main et nous refusons aussi la peur, désirant ensemble que la terre, cette fois-ci, vibre leur apocalypse. 1er janvier 2012. Ils arrivent. Ils arrivent. Je me suis réveillé dans la peur ce matin. J'ai senti une vibration de la terre m'alerter. Ils arrivent. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas trouvé ma voix. Je suis sorti dans la peur de la maison où je vis, me répétant pour ne pas oublier. Ils arrivent. Je me suis cogné à une dame qui revenait de la boulangerie. J'ai serré fort ses épaules et j'ai répété une nouvelle fois. Ils arrivent. Ils arrivent. Elle m'a tourné le dos et a continué son chemin. Dans les congrès de gauche, dans les salles d'université, dans les conversations au bar, dans les rues de mon quartier, tant qu'il est encore temps, j'insiste et je répète, ils arrivent. Le temps des assassins arrivera bientôt à son apogée. Les rues sont reprises par leurs marches, les maisons envahies par leur police, les chansons seront chantées pour louer l'ordre qui est le leur, la vie sera découpée afin de tenir dans leur boîte, les corps seront formatés selon leur grammaire, les voix modulées pour répéter leur hymne et, ainsi, de tous côtés, ils viendront. Ils arrivent déjà. Avant, ils étaient en latence. Lents, pas vraiment cachés, mais en retrait, pour sûr. Et il y en a tellement qui, comme moi, depuis un certain temps, n'ont de cesse de pressentir leurs pas que d'entendre leurs chuchotements. Ils ont un plan et leur instant arrive. Ils tenteront de tenir la promesse faite par João Batista de la Serta. Nous sommes aujourd'hui en 2012, l'année promise de l'apocalypse de la vie noire au Brésil. Et ils arrivent. 23 novembre 2021. La lumière noire a illuminé d'un coup le labyrinthe de tunnels et, ensemble, nous avons tout fait trembler aux alentours. Nous sommes fatigués de toujours tout perdre. Il nous faudra aussi prendre quelque chose, couper le monde. Cette fois-ci, ça a été la plus vieille des guerrières. Elle était malade, elle se plaignait de notre condition, elle était triste, profondément triste, mais toujours altière dans sa propre furie, à la hauteur de la rage elle-même. En son hommage, cette fois-ci, en perdant tout, nous avons fait en sorte qu'il reste quelque chose. Comme si la douleur de ce qui nous traverse en était, finalement, arrivée au point de transborder. Nous nous sommes donné la main et, autour du corps endormi de notre vieille, nous avons fait advenir un grand tremblement. Certaines ont craint que la terre ne s'effondre sur nos mains. Au fond, nous désirions toute une forme d'effondrement. La terre ébranlée a vibré au-delà des tunnels et nous avons senti arriver à nous les ondes de peur de ce qui, au fil de toutes ces années, nous avait fait vivre dans la peur. C'était une attaque, nous les atteignions. Nous faisions irradier notre douloureuse furie et nous sentions que, plus nous serrions les mains l'une de l'autre, plus nous devenions intimes de la terre qui nous entourait. Abasourdis de notre propre pouvoir, nous brinqueballions, aussi, ébranlés par le tremblement que nous causions à leur monde. Effrayés de la matérialité de notre pouvoir, de notre capacité à affecter de la sorte, de façon si directe, la structure de leur monde, la santé de leur monde, l'architecture et la grammaire de leur monde. Nous étions là, attachés par une force qui provenait, justement, de la réunion de nos fragilités. Nous étions faibles, brisés, et nous avions déjà tout perdu, tant et tant de fois. Et d'une certaine manière, depuis le labyrinthe de tunnels sous la terre, nous actionnions un tremblement de terre contre leur monde. De fait, il nous a semblé que nous étions prêtes à briser pour toujours leur monde. Jusqu'à ce que l'épuisement n'arrive et ne s'abatte sur nous et sur la terre elle-même. Nos mains se sont déprises et nous avons commencé à tomber, une à une. Le labyrinthe de tunnels est resté intact. Un moment, nous nous sommes toutes demandées en silence où nous étions, à quelle profondeur, où, au centre de tout, nous nous étions retrouvés. 29 octobre 2018. Un silence profond a fait sombrer la matinée. La dernière alarme, et la plus évidente, avait finalement sonné. Ils étaient arrivés. Nous avions prévenu qu'ils viendraient. Ils étaient arrivés. 24 novembre 2021. Nous désirons profondément que le monde tel qu'il nous a été donné prenne fin. Et c'est là un désir indestructible. Nous avons été soumises à toutes les formes de violence, fécondées dans l'obscurité impossible de toutes les formes sociales, condamnées à naître déjà mortes et à vivre contre toute formation, au centre de toute formation. Nous désirons profondément que le monde, tel qu'il nous a été donné, prenne fin. Qu'il prenne fin discrètement, au niveau particulier, dans l'intimité catastrophique de ce monde destitué de monde, ce monde que la Terre elle-même rejette. Ces mots ont circulé, par télépathie, en toutes celles que nous étions, pas vraiment comme une pensée, mais comme quelque chose qui vibrait hors de notre corps, dans la chair du tunnel, celle de notre vieille, de nous-mêmes. Nous désirons profondément que le monde, tel qu'il nous a été donné, prenne fin. La lumière noire, qui s'était incarnée en tout, dans toute son intensité, a coulé petit à petit entre les recoins du labyrinthe, baignant nos corps et s'enfonçant de nouveau dans les profondeurs. Longtemps, nous avions été là, à cuisiner avec la terre. Petit à petit, à mesure que nos corps recouvraient l'accès aux jambes, nous avons décidé de nous séparer et de nous déplacer dans le labyrinthe de tunnels, tentant de capter les répercussions de notre attaque et d'étudier les incidences que nous avions faits. Alors que je marchais, je me suis rappelé une phrase
que j'avais apprise peu de temps avant la matinée du 1er janvier 2012. Que la victoire récompense ceux qui auraient fait la guerre sans l'armée. J'ai senti que ce souvenir ricochait sur les parois du tunnel et vibrait en même temps en toutes celles qui m'accompagnaient. Aucune réponse n'a vibré. Nous avons continué en silence, étudiant le labyrinthe. Tout semblait étrangement calme. Nous étions vivantes. Nous allions vivre.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara, minha voz cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar, pra nos oprimir, pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso lugar de fala.
Comment se préparer pour la guerre? Écrit d'une survivante. Je suis un corps fleur et je suis en guerre. Je suis un corps fleur et je suis fatiguée de faire la guerre. Je suis un corps fleur avec un désir de mener bataille. Je suis un corps fleur et je vaincrai toutes les batailles. Je n'ai pas peur de la mort, mais de l'annihilation. Je suis un fragment d'îlot et je peux mesurer dans mon corps les différentes temporalités qui le constituent. Mon expérience de monde est marquée par des fictions racistes et des aquilombamentos qui, comme moi, survivent depuis des siècles grâce à la réinvention de soi. Cela fait quelques centaines d'années que je suis reterritorialisée dans des zones de bataille où des technologies contre et pour ma mort sont produites. Brésil, Angola, Paraguay, États-Unis d'Amérique, Portugal, France, Nigeria, Cuba, Argentine, Angleterre, Inde, Japon. Je négocie mon existence en divers gestes culturels, en me réinventant dans un linguage art singulier, le Pajuba. Les gestes sont des langues et les langues peuvent être écrites. Facétieuse, je me donne des nationalités qui me dématérialisent, comme tentative d'assurer ma survie dans ces géographies de guerre. Ici et là, je crée des accords avec l'humanité occidentale et, ainsi, je peux fortifier le trafic international d'informations interdites. Ils nous interdisent l'accès aux connaissances et nous empêchent de produire du contenu qui nous aide à forger des libertés. L'œuvre d'art, par exemple, est une digestion singulière des désirs, affects et mémoires produits et ingérés collectivement. Dans le cas où l'auteur occupe une position de mortification dans le territoire dans lequel il existe, comme c'est mon cas, les pratiques de pouvoir savoir auront, pour sûr, tendance à rendre ces expériences de liberté difficiles, à l'image de l'esclavage, l'extermination et l'incarcération de masse de la population noire brésilienne. En fait, la difficulté que nous, les corps dépatrialisés, pouvons développer lorsque nous créons des œuvres de liberté, est un symptôme de notre propre emprisonnement. Ainsi, il ne doit pas se produire d'écart entre l'œuvre et l'auteur, même si celui-ci opte pour l'anonymat. Car l'œuvre, dans toutes ses possibilités, n'advient qu'avec une intention du sujet artiste et, dans ce sens, tout choix est toujours une redirection de pouvoir vital. L'énergie, la force ou le pouvoir vital est le contenu le plus précieux pour nous et pour ceux qui veulent nous mortifier et nous tuer. C'est cette énergie qui nous meut et qui nous permet de mouvoir le monde. Dans le cri, dans la mise sous silence, dans la douleur, dans la jouissance, dans le bonheur, dans l'angoisse, dans la liberté, dans l'emprisonnement. En tout, il y a énergie de vie. Cela fait des siècles que ceux qui haïssent la différence ont appris à capturer et à manipuler ce contenu vital et, depuis lors, nous utilisent pour nous désempouvoirer, redirigeant notre force vers des violences contre nous et nous jettent quand nous n'avons plus de force qui puisse être saisie. Alors, cela nous revient. Nous forgeons des autonomies de vitalité qui nous permettent de continuer à nous affirmer comme des matérialités non conformes. Corps, œuvre et désobéissantes coordonnées du biocapitalisme. Pour que des déstabilisations ébranlent les machines coloniales, qui produisent et autorisent uniquement des subjectivités racistes et binaires, et pour qu'il y ait aussi une déterritorialisation et une abdication de territoires urbanisés, nous devons nous défaire du corps endurci par la colonialité et comprendre notre corps comme lieu de mémoire. Si, en moi, il y a des milliards de mémoires jetées à la mer, aujourd'hui j'existe car je suis l'un des corps qui a survécu au naufrage. Nous, corps aquatiques, devons toujours être compris dans la perspective de bancs de poissons, sans que, pour autant, ne soient effacées nos manières singulières de nous baigner dans les eaux salées. En effet, mon contexte géographique me constitue en geste. qui ne seraient pas les mêmes si j'avais vécu mes 22 ans sur un autre point terrestre que la ville de Vitoria, dans l'état d'Espírito Santo, au Brésil. Ces gestes qui sont en perpétuelle modification et qui peuvent contribuer ou non à contre-attaquer ceux qui veulent éliminer notre matérialité, non blanche, appauvrie, descendante de genre. Tout écosystème est un ensemble d'éléments qui, assemblés, créent des situations particulières qui rendent la vie, la mort et le meurtre possibles. Cette relation est responsable de ma complexité, qui se forge avec les objets, identité, mémoire, désir, affect, qui constituent mon territoire d'existence, le corps. Ma corporalité est un éphémère fragment de l'histoire et du temps. Je développe des stratégies singulières pour cohabiter avec le monde et des vies qui m'effraient et me protègent. Je vis en conflit avec moi-même et avec les autres. Et ces autres me constituent de manière symbiotique. Je m'assume en tant que subalterne et je dénonce les ravitaillements de facilité qui créent vos privilèges grâce à mon appauvrissement. Ma négritude, bicha, et ma bichalité noire n'existeraient pas sous forme de paroles dites et écrites sans l'existence de la symétrie politique du monde colonial. Mais mon existence pèse plus qu'un mot. Mon expérience est déjà indépendante de n'importe quelle littérature, et j'ai négocié avec toutes les manières d'écrire, parler et gestualiser qui facilitent la survie de mon corps noir testiculé. Mon corps précède et se renforce avec la parole. Je ne me rends dans aucune identité cataloguée par la médecine, par la psychologie ou par la pharmacie. Mais je les utilise pour créer des possibilités de survie. Durant mes 22 ans de contact avec des sociétés occidentales, mon corps noir foncé et testiculé est devenu noire, noir, masculin, féminin, bicha, travesti, femme, garçon, transsexuel, non-binaire, queer, queer, et continuera d'être capturé par des processus identitaires. Et je continuerai de négocier malicieusement avec les processus de racialisation sexuelle. En plus de cela, je vis dans une contemporanéité marquée par l'hybridation de l'homo sapiens et des machines. Les processus de subjectivation actuels transforment mon plaisir en pilule, mon organicité en capital financier. Je suis un technocorps qui désire se transformer en fleur. Je suis un corps fleur qui, quotidiennement, coupe les fils qui le lient au système produit par le biocapitalisme. Mon sang, mon anatomie et toute ma biochimie se sont transformés en éléments de valeur dans l'économie. Alors, la désintoxication et la déprogrammation sont des pratiques fondamentales pour que ma, notre vie, continue d'advenir. Et si je perçois mon existence manipulée par le colonialisme comme une ténébreuse expérience de vie, alors mon désir de vie est un acte guerrier. Je veux vivre dans un banc de poissons. Je me prépare pour la guerre à chaque fois que je dénonce son existence. Les corps subjectivés par l'occidentalité doivent comprendre que nous sommes en guerre, civile, internationale, subjective. Il n'existe pas de liberté si nous ignorons ce conflit. Durant toute cette période de guerre, les technologies d'attaque se transforment et s'actualisent. La survie de singularité noire est une expérience pour donner suite au processus de croisement de cultures différentes de la diaspora africaine. Pour nous, corps racisés comme noirs, nous devons comprendre la culture noire comme un lieu d'intersection. Pour survivre, nous devons incorporer Ekju Alekbara, principe dynamique qui médite tous les actes de création et d'interprétation du savoir. S'entraîner à la guerre, c'est trafiquer le temps, la mémoire, les secrets et le capital. c'est aussi permettre que nos corps soient trafiqués par d'autres corps qui sont en train d'être trafiqués dans leur colonie. C'est-à-dire créer un réseau de circulation et de fortification de nos pouvoirs vitaux qui sont matérialisés en texte, musique, vidéo, objets, actions et autres possibilités. Nous devons faire attention au processus de collectivité, car par eux nous sommes violentés et c'est en groupe que nous contre-attaquerons. S'entraîner, c'est désapprendre des gestes alors qu'on se remémore un passé qui, alors qu'on y accède, s'actualise en force dans le présent. L'entraînement est un processus de recherche épistémique, d'investigation affective, de cartographie anatomique, de plongée en soi-même. Lorsque nous assumons un état d'entraînement, nous apprenons avec la fatigue que nous devons comprendre nos limites et opter pour ne pas dépasser certaines, car cette action peut être suicidaire. L'entraînement ne se cristallise pas dans un espace-temps spécifique. Il peut être réalisé depuis n'importe quel endroit du territoire. S'entraîner, c'est produire des chorégraphies de libération à partir des mouvements qui nous emprisonnent.
Les textes que vous avez entendus ont été écrits par les autrices brésiliennes Pedra Costa, Musa Micheli Matiudi, Jota Mombasa et Castiel Vitorino Brasileiro. Ils ont été traduits par Luana Almeida, Valentina D'Avenia, Aurore Zacaius et Léa Meyer, dans le cadre de la publication Braza, la traduction comme geste politique, prochainement publiée chez Brook. Pour cette session d'écoute, ils ont été lus par Nelson, Sarah Baraka, Chienne de Garde, Itana Asher et Laurie Abiyambéré. Merci à elle.
A previsão do tempo diz que o céu fechou. Oh, o poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão.
Braza, la traduction comme geste politique, est un projet de publication qui propose de traduire en français des textes de Ingrid Martins, Preto Teo, Mona Brutal, Tatiana Nascimento, Pacha Ana, Grace Passot, Castiel Vitorino Brasileiro, Lucas Veiga, Ricardo Aleixo, Miro Spinelli, Musa Michele Matiuzzi, Jota Mombasa, Pedra Costa, Rebeca Carapiá e Sara Elton Panambi.
Ces 15 poétex, artistes, chercheuses, écrivainex, constituent par leur production littéraire engagée des références pour les scènes artistiques, universitaire et militante LGBTQIA+, et décoloniale brésilienne.
Les textes sélectionnés ont été choisis par Diane Lima, Cynthia Guedes et Abigail Campos Leal.
Le but de cette publication est de permettre la diffusion de ces points de vue, non occidalo-centrés, en les rendant accessibles aux lectrices francophones. Le processus de traduction est collectif, s'invente et se transforme au fur et à mesure des discussions avec leurs autrices, faisant se croiser des regards et des langues.
Pour cette session d'écoute, nous avons utilisé les chansons Non Foi Cabral de MC Carol et O Novo Morrer de Ventura Profana, O Que Se Cala de Elsa Soares et Rajadão de Pablo Vittar. Merci à toutes pour votre écoute et bonne soirée sur Radio 40.